Bonsoir. Alors, nous allons parler ce soir d'intimité sexuelle. Et bon, je trouve que le temps s'y prête, il fait chaud, c'est le printemps, tout ça. Donc, nous allons commencer par un exposé de Rajesh Sharma, qui est à la fois professeur, qui a été longtemps professeur à Sciences Po et qui est aussi un éditeur connu qui édite la littérature d'Inde et de l'Asie du Sud, Actes Sud, justement. Rajesh, c'est à vous.
Merci. Tout d'abord, je tenais à vous dire que c'est la toute première fois que je suis ici, à l'Université populaire ainsi qu'au musée du Quai Branly, et je suis ravi. Un grand merci à Catherine Clément. L'intimité sexuelle en Inde. Sans vouloir vous décevoir, je ne comptais pas parler du Kama Sutra. Cet ancien traité scientifique du 6e, 7e siècle que tout le monde semble connaître. Je vais me limiter au temps moderne et principalement à l'Inde d'aujourd'hui. La société indienne, et je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, est patriarcale, traditionnelle et assez conservatrice, où la famille est, par conséquent, le mariage, joué et continue à jouer un rôle capital. C'était la clé de voûte de la société et pendant assez longtemps, les Indiens découvraient le sexe et donc leur sexualité au moment du mariage. Bien évidemment, il est impossible de généraliser de cette manière lorsqu'il s'agit d'un pays aussi complexe et aussi compliqué que l'Inde. Il y avait bien évidemment des gens ou des hommes qui allaient chez des prostituées ou même chez des courtisanes, mais ceci ne concernait qu'une faible minorité. Vous avez tous entendu parler du fameux mariage arrangé. Je croyais en fait que tout le monde le saurait, mais apparemment non. En théorie, c'est une institution pas très difficile à comprendre, mais en réalité, c'est un processus. Et ça reste, ou c'était un processus, ça reste un processus extrêmement lent, qui demande beaucoup de préparation, beaucoup d'efforts, beaucoup de diplomatie et beaucoup de patience. Il y a 50 ans, la grosse majorité des mariages en Inde étaient des mariages arrangés. Aujourd'hui, la situation a changé. L'Inde a énormément progressé. La femme est plus éduquée qu'avant, travaille plus qu'avant en dehors de la maison. Elle est plus indépendante, elle est plus confiante, prête à tenir tête, se battre pour ses droits. Mais le mariage arrangé reste, malgré tout, très important. Même si je n'ai pas vraiment de chiffres à vous donner, de statistiques à vous donner, je dirais quand même qu'aujourd'hui aussi, la majorité des mariages sont arrangés. Peut-être pas de la même façon. Pour vous expliquer assez vite, avant cette explosion de la téléphonie et de l'Internet, les parents du garçon et de la fille à marier cherchaient un bon parti en fonction de la religion, en fonction de la caste, de la communauté et de la région. Pourquoi la région? Parce que les deux des trois premiers éléments, que ce soit la religion, caste ou communauté, ça c'est assez compréhensible. La région parce que il faut que les mariés parlent la même langue. Il faut que les mariés aient les mêmes partage le même type de nourriture, le même type de coutumes et de traditions. Et pour chercher donc la grande famille, les vieilles tantes et même le gourou de la famille sont mêlés pour trouver un garçon ou une fille convenable. Une fois que le garçon ou la fille a été identifié, il était temps d'échanger des horoscopes. C'est ça les horoscopes, c'est ce qu'on dit ? Si rien ne cloche et le pandit, le prêtre, approuve, très bien. Mais sinon, il faudrait tout recommencer. Et le processus recommence et ça prend encore beaucoup de temps. Ensuite, il est question de la dot. Bien que la dot soit interdite par la loi. Par contre, même si c'est interdit par la loi, ça reste quand même une partie intégrante de la société et des négociations. Ensuite, il faut parler des cérémonies, des invités, donc ça continue et c'est quand même c'est assez long. La fille est rarement consultée. Et son consentement est pratiquement jamais demandé. Par contre, le garçon peut avoir son mot à dire. Cela dépendait des familles, mais dans la plupart des cas, les futurs mariés soit ne se voyaient pas du tout, ou ne se voyaient qu'une seule fois, brièvement, entourés par des membres de la famille. À l'époque, rares étaient les couples qui partaient en lune de miel. Cela coûtait cher et ça ne faisait pas partie des habitudes. Par conséquent, les couples nouvellement mariés n'avaient ni le temps ni l'espace pour apprendre à se connaître. C'était l'époque de ce qu'on appelle en anglais « joint families », des familles élargies. Donc vous viviez avec des oncles, des tantes, des grands-parents, des neveux, des nièces, ce qui impliquait encore moins d'espace privé pour le peuple, ou pas d'espace du tout. Et si jamais le mariage avait lieu en été, il fait chaud en Inde et les gens dorment à la belle étoile en plein air. Donc ça veut dire toute la famille, la grande famille, toute la famille élargie, dormait ensemble sur le toit terrasse de la maison. Pas de climatisation à l'époque. Et je vais vous décrire la scène, et ça peut vous amuser, ou ça va vous amuser sûrement. Lorsque tout le monde dormait comme ça à la belle étoile, on laissait les mariés installer leur lit. Et je dis bien lit parce qu'il y a deux lits. Ce n'était pas à l'époque des grands lits ou des double bed ou double lit, à quelques mètres de distance. Et on pendait une sorte de drap, une sorte de couverture pour qu'il soit un peu caché. Je dis bien un peu caché, parce qu'on pouvait quand même les apercevoir et on pouvait les entendre. Je vous laisse imaginer le reste. Mais l'homme va attendre. Le nouvellement marié, l'homme va attendre que tout le monde s'endorme. Il va ensuite, en faisant le moins de bruit possible, aller de son lit à celui de sa femme. La jeune mariée, extrêmement mal à l'aise, parce que c'est pas chez elle, et c'est la première fois qu'elle est là, et dans une famille qu'elle ne connaît pas. Elle est très mal à l'aise, et elle va tout faire pour qu'il n'y ait pas de son côté de bruit non plus, et pour que ça ne dure pas longtemps. Ce sera le début de leur intimité sexuelle. Et leur vie, malheureusement, ne changera pas beaucoup. Parce que la vie, ce sera toujours entourée de beaucoup, beaucoup de personnes, sans espace privé. Deux éléments vont contribuer à un changement radical du mariage arrangé. Premièrement, la presse. De plus en plus de familles passent par la presse maintenant, ou passent par la presse. Les annonces classées matrimoniales dans chaque journal local, régional, national, des pages et des pages entières, extrêmement bien organisées. Vous avez des colonnes comme ça, par sexe, par caste, par profession. Et je peux vous dire, comme en France, en Inde aussi, les énarques indiens ont la cote. Ainsi que ceux de la diaspora. Parce que, comme vous le savez, au cours du temps, l'Inde, ou plutôt les Indes, ont connu beaucoup, beaucoup, ou plusieurs vagues d'immigration, ou d'émigration. D'abord, dans les années 1830, après l'abolition de l'esclavage, vers l'Asie du Sud-Est, vers l'île Maurice, vers la Guadeloupe, la Martinique. Ensuite, dans les années 1950, vers l'Angleterre, après l'indépendance, les États-Unis, le Canada, l'Australie. Bref, les Indiens sont partout. Même aujourd'hui, en 2016, les familles d'origine indienne installées depuis plus de 150 ans en île Maurice ou en Malaisie viennent chercher des partenaires pour leurs filles ou leurs garçons en Inde, aujourd'hui aussi. Soit au Bihar, ça dépend d'où est partie l'immigration, soit au Bihar ou au Tamil Nadu dans le sud de l'Inde. En fait, je vais vous montrer là, parce que j'ai pas beaucoup de visuels, j'ai apporté deux visuels. D'abord une carte de l'Inde. Le Bihar est grosso modo ici, je ne vois pas. Voilà, le Bihar est là. Et donc ça, l'immigration est allée vers l'île Maurice. Ensuite, le Tamil Nadu ici, où on parle tamoul, la capitale est Madras. Là, c'est de l'Asie du Sud-Est, donc vers la Malaisie. Donc bref, cette diaspora souhaite aujourd'hui aussi garder intacte autant que possible leur identité. Ça veut dire religion, ça veut dire caste, ça veut dire langue. Et le choix des prétendants à l'étranger, donc en île Maurice ou ailleurs, est extrêmement limité. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent, en Inde. Le deuxième développement extrêmement important aussi était l'arrivée de l'Internet. Des sites web spécialisés avec des résumés détaillés et des photos des garçons et des filles connaissaient un succès tonitruant. Comme la génération des parents ne maîtrisait ni l'Internet ni l'ordinateur, les jeunes sont impliqués dans la recherche des partenaires. Donc ils passent des heures à surfer sur le net et à explorer. Par conséquent, ils commencent non seulement à jouer un rôle dans la recherche de leurs partenaires, mais leur participation est capitale. Et une fois que le premier contact est établi entre garçons et filles, ils poursuivent le contact sans que les parents le sachent, grâce à Facebook ou à WhatsApp, vous savez, cette application que tout le monde connaît. Donc le mariage traditionnel ou le mariage arrangé n'est plus ce qu'il était. Même si l'Inde aujourd'hui est qualifiée de pays en développement, elle a fait de remarquables progrès du point de vue économique, social, dans le domaine de l'éducation. Il y a donc aujourd'hui des mariages d'amour, un faible pourcentage des gens qui habitent ensemble, qui vivent ensemble, des couples du même sexe et même des transgenres, du troisième sexe. Mais je vous en parlerai plus tard. Mais au niveau national, la grosse majorité des mariages, aujourd'hui aussi, restent des mariages arrangés. Beaucoup d'entre vous, comme je disais, connaissez certainement l'Inde, soit par vos lectures, soit par vos visites. J'ai quand même apporté cette carte pour donner une idée de différentes choses. L'Inde est un grand pays, comme vous le savez. Bon, c'est une banalité, mais c'est important à signaler parce que la population aujourd'hui se chiffre à 132 millions d'habitants, donc 1,32 milliard personnes, dont seulement 640 millions de femmes, c'est-à-dire 943 femmes pour 1000 hommes. Et là, j'ai un deuxième diapo, comme ça, voilà. Donc l'Inde connaît aujourd'hui un sexe ratio, la proportion homme-femme, très déséquilibrée, qui s'explique principalement par l'infanticide et par l'avortement sélectif aux dépens des filles. La préférence pour les garçons est telle que des femmes avortent lorsqu'elles sont enceintes de filles ou d'une fille. L'existence de cas d'infanticide consécutif à un diagnostic prénatal a conduit les autorités indiennes à interdire les tests permettant de déterminer le sexe des futus, c'est ça futus. Le gynécide ou le meurtre des filles reste assez courant en milieu rural. Les dérives de la coutume de la dot seraient l'une des principales causes de l'avortement sélectif et des infanticides. Et même aujourd'hui, il reste important. Dans certaines régions, vous voyez le chiffre, le déséquilibre homme-femme n'existe pas comme le Kerala, où il y a assez de femmes. Mais dans certaines parties de l'Inde, comme le Nord, le Punjab, Le Punjab, c'est ici, et le Kerala, c'est ici. À deux extrêmes de l'Inde. Donc, dans le Kerala, il y a assez de femmes pour 1000 hommes, sauf 1084. Au Punjab, par contre, il n'y a que 818 femmes. Et la situation est assez inquiétante et assez grave. Et en raison de la rareté des femmes, les Sikhs, ce sont des hommes avec un turban, les Punjabis, qui habitent le Punjab, vont de plus en plus souvent assez loin pour chercher des femmes. En particulier vers les États, et là j'ai obligé de refaire la même chose pour montrer, ils vont assez loin, donc vers les États du nord-est de l'Inde, comme l'Assam, le Manipur, etc. Parce qu'ils ne trouvent pas de partenaires ailleurs. Ça veut dire qu'ils sont ici, ils vont jusqu'ici, vous voyez ? L'Assam, vous connaissez le thé, l'Assamé. Donc l'Assam, le Manipur, enfin tous les États ici. Et je voulais que nous nous arrêtions un instant sur ce point. Le Punjabi, donc le Sikh, est prêt à épouser une femme du nord-est qui habite à une distance de 3000 km, qui n'a pas la même religion que lui, qui ne parle pas la même langue que lui et qui ne partage pas la même nourriture que lui. Mais comme il n'a pas le choix, il n'est pas de femme au Punjab, il est obligé d'aller si loin. Et pour être honnête, en ce qui me concerne personnellement, quelque part, ça me dérange beaucoup. Est-ce que le Sikh ou le Punjabi, connaissant la société indienne assez conservatrice et assez traditionnelle, est-ce qu'il est capable de traiter cette femme sur la durée, sur plusieurs années, avec le même respect qu'une femme de sa région? Franchement, je ne suis pas très sûr. Mais ce sont des choses qui arrivent et on ne sait pas ce qui va se passer après, mais aujourd'hui, c'est une question qui se pose. Venons-en au mariage donc d'amour. La femme en Inde, aujourd'hui, qui a reçu une éducation supérieure et vit dans des villes, a tendance à rejeter les contraintes de la société patriarcale. La dimension réduite des appartements, parce que l'immobilier, ça coûte cher, comme ici, ça a disloqué les structures de la famille élargie. Les liens familiaux restent malgré tout assez puissants, mais leurs effets sur la vie quotidienne, de vie de tous les jours, n'est pas aussi grave, si vous voulez. Le sérieux n'est pas très grave. La femme moderne travaille. La loi lui reconnaît droit à une part d'héritage, même si cette part d'héritage n'est pas toujours gagnée. Cette disposition est cependant rarement appliquée et les recours en justice sont souvent aléatoires et difficiles. Donc ça veut dire que la femme, même si elle a droit à une part d'héritage, ce n'est pas sûr qu'elle l'aura. Pour chercher du travail, énormément de jeunes hommes viennent s'installer dans les grandes villes comme Delhi. Ils habitent pour la plupart, je parle des hommes, parlent pour la plupart dans les banlieues modestes de la ville. Ils ne savent pas, ce sont des gens qui viennent de la campagne, des petites villes. Ils ne savent, ils ne sont pas très éduqués. Ils ne savent pas comment réagir, comment se comporter face à cette femme ou face à ces jeunes femmes qui s'habillent comme elles veulent, elles sortent comme elles veulent, avec qui elles veulent et quand elles veulent. Et ces hommes ont souvent peu d'éducation et des réflexes assez très misogynes. D'où le problème énorme d'agression et de violence contre les femmes, dont vous avez sûrement lu dans la presse. Les Nations Unies ont même sont allées jusqu'à qualifier l'Inde ou qualifier le viol de problème national en Inde. Est-ce qu'il y a plus de viols aujourd'hui qu'auparavant? On en parle évidemment beaucoup plus souvent aujourd'hui, car les femmes ont le courage aujourd'hui de protester, de porter plainte, même contre leur famille, contre leur propre famille. Il y a 4 ans, un vol qui a fait la une de la presse partout, particulièrement brutal, a provoqué un séisme social et affectif d'une ampleur et d'une intensité inouïe. Sous l'œil des caméras du monde entier, l'Inde vit depuis un tournant de son histoire. Il faut remonter à décembre 2012, à New Delhi. Ce jour-là, rentrant du cinéma avec son ami, une jeune étudiante en médecine, une fille éduquée, de famille relativement modeste, mais éduquée et très, très moderne, a été sauvagement agressée et violée par 5 ou 6 hommes dans un autobus. Elle meurt des suites de son viol 15 jours plus tard, et en Inde, c'est le choc. Parce qu'il s'agit d'une jeune femme moderne, éduquée, ce que l'affaire fait la une de toute la presse nationale et internationale. Et tout le monde est quand même assez dérangé, assez catastrophé. Des centaines de milliers de personnes manifestent, réclament la justice et réclament la fin de l'impunité pour ces viols qui sont devenus monnaie courante. Depuis la mort de cette jeune femme, les manifestations, des prises de position, des débats se multiplient. La tonalité singulière, Delhi est qualifiée la capitale, donc est qualifiée de capitale du viol. Et l'Inde, presque toute entière, semble approuver un malaise étrange. Des tribunaux spéciaux ont été mis en place, les sentences rendues plus sévères, mais les viols continuent. Pas seulement continuent comme ça, mais même au sein du couple, le viol conjugal. Violer sa femme n'est pas violer la loi. Une phrase prononcée par un ministre, et le ministre de Justice disent beaucoup de choses, disent des bêtises tout le temps, par le gouvernement a ravivé la polémique. Dans un pays où les affaires d'agression sexuelle défraient la chronique plus souvent qu'ailleurs, le ministre des Affaires familiales a confirmé ce que redoutaient les défenseurs du droit des femmes. Le viol conjugal ne sera pas ni reconnu, ni puni. Nous considérons, et je cite, « Nous considérons que le concept du viol conjugal tel qu'appréhendé à l'international ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires dans le contexte indien. » Ce sont les mots du ministre des Affaires familiales, qui a ainsi justifié le point de vue du gouvernement, une justification pour le moins étonnante. Il affirme que le viol conjugal ne saurait s'appliquer à l'Inde de par ses coutumes, de son niveau d'éducation, son taux de pauvreté, ses convictions religieuses et donc le caractère sacré que revêt le mariage dans le pays. Pour apaiser les défenseurs des droits des femmes, une petite atténuation a été apportée à la loi qui dit seulement ce que les rapports et actes sexuels commis par un homme sur son épouse lorsque la femme n'est pas âgée... Pardon, c'est pas ça. Ça, c'est la loi. Les rapports des actes sexuels commis par un homme sur son épouse lorsque la femme n'est pas âgée de moins de 15 ans n'est pas du viol. Mais le changement qui était apporté, lorsque la femme et le mari sont autorisés par un décret légal à ne plus vivre ensemble, dans ce cas uniquement, une relation sexuelle forcée pourrait conduire à une peine d'emprisonnement de 2 à 7 ans. Seulement lorsqu'ils ne vivent pas ensemble. Mais sinon, s'ils vivent ensemble, tout est permis au mari. Une autre expression, je vais dire ça rapidement, une autre expression pour le moins étrange qui a commencé à s'installer sournoisement dans le champ lexical en Inde est le mot love jihad. Les extrémistes hindous accusent les musulmans de pratiquer un love jihad, un jihad de l'amour. Des hommes de confession musulmane tenteraient, c'est ce qu'ils disent, de séduire des jeunes femmes hindoues dans le but de les convertir à l'islam et de les épouser. Les accusations sont fondement pour les musulmans qui dénoncent un complot contre leur communauté. Derrière ces accusations, rapportées régulièrement par la presse, se trouvent des fondamentalistes hindous, plus influents que jamais à cause du gouvernement actuel au pouvoir, le BJP, le parti de droite nationaliste. Selon les gens du BJP, des dizaines de femmes seraient piégées et parfois violées chaque mois. Une nation où les relations entre la majorité hindoue et la minorité musulmane restent toujours tendues, de tels fantasmes risquent de semer la terreur. Il suffit qu'une jeune femme hindoue soit repérée en train d'afficher une amitié trop ostensible avec un jeune musulman pour qu'un châtiment s'abatte. Des milices islamiques répliquent en s'attaquant au couple formé d'une fille musulmane et d'un garçon hindou. Donc ça continue tout le temps et ça devient extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement difficile pour la vie de tous les jours. Je voudrais aussi rapidement évoquer la question de l'homosexualité en Inde. Il y a 4 ans, la Haute Cour de justice de Delhi. Il y a 4 ans, la Haute Cour de justice de Delhi avait pris une décision historique. Au nom des valeurs de la Constitution indienne, à savoir la dignité humaine et la non-discrimination, les juges avaient déclaré que l'article 377, qui punit d'emprisonnement les relations charnelles contre nature, et met dans le même sac homosexualité, pédophilie ou zoophilie, étant anticonstitutionnel, et s'était prononcé pour la première fois contre la pénalisation de l'homosexualité. Mais malheureusement, la Cour suprême, qui est la Cour la plus haute, est repartie 150 ans en retard en annulant la décision de la Haute Cour. Elle a décidé de maintenir la légalité de cet article que je viens de vous citer, rédigé par les Britanniques en 1860. Donc aujourd'hui aussi, l'homosexualité reste un délit en Inde. Voici l'Inde rattrapée par sa autre moitié, beaucoup plus conservatrice et beaucoup plus nombreuse, qui vit loin des grandes villes et des combats pour l'égalité des droits. Je vais parler du cinéma. On peut difficilement parler de l'Inde sans parler du cinéma. Comme vous le savez, c'est la plus grande industrie cinématographique du monde et produit pratiquement 3 films par jour, donc entre 800 et 1200 films par an. Et puisque nous allons parler bientôt du baiser, les films indiens ont commencé à montrer le baiser. Je parle d'un baiser tout simple, depuis quelques années seulement. Toutes ces décennies, les caméras filmaient l'homme et la femme s'approcher et juste au moment où les lèvres se touchent, les caméras passaient à autre chose, passaient à 2 fleurs qui vivent dans le vent ou à une autre image, uniquement pour ne pas montrer le baiser. Depuis quelques années, on commence à montrer le baiser, mais on est loin des scènes d'amour torrides comme dans l'Occident. Mais contrairement à ce que pensent les gens, il est important d'aller au-delà des clichés. Le cinéma indien reste extrêmement divers, riche et varié. Il reflète, à sa manière certes, l'état changeant de la société et ose mettre souvent, pas très souvent, mais souvent quand même, l'amour entre 2 hommes ou même entre 2 femmes. Par exemple, il y a un film ici qui est sorti il y a 2 semaines, que je n'ai pas vu encore, qui s'appelle « La saison des femmes ». Il y a des affiches dans le métro partout, vous avez dû le voir, ou certains ont déjà vu sûrement. Ce film n'a pas été diffusé en Inde encore. C'est l'histoire de trois femmes du même village qui sont persécutées par leur mari ou leur patron. L'histoire n'est pas ici, ça se déroule dans l'état du Gujarat. Gujarat, c'est l'état du Gandhi, du grand Gandhi, Mahatma Gandhi, mais c'est aussi l'état de Modi, le Premier ministre actuel, qui est un homme de la droite nationaliste. Mais le choix de l'État est sûrement un hasard. Mais le film ne se contente pas d'explorer l'oppression ou la répression que les trois femmes subissent, parce que les trois femmes vont finir par se rebeller avec succès contre le patriarcat qu'on veut leur imposer. Pour terminer, je dirais seulement qu'il n'est pas facile de changer les choses en Inde. Cela prend du temps, parfois plusieurs décennies, ou même plusieurs générations. Mais je dois dire que mon pays ne cesse pas de m'étonner. Pas plus tard que la semaine dernière, une jeune femme d'un village de l'Uttar Pradesh, c'est l'état du nord de l'Inde, un grand état, assez conservateur. Donc cette jeune femme d'Uttar Pradesh, une femme sans beaucoup d'éducation, une femme extrêmement modeste, elle allait se marier, elle a fait savoir à sa belle-famille qu'elle exigeait que des toilettes soient construites. Il n'y avait pas de toilettes dans l'autre famille. Des toilettes soient construites à l'intérieur de la maison, avant le mariage. Parce que les femmes s'exposent à de nombreuses agressions sexuelles en allant dans des champs pour leurs besoins. Mais quand elle a appris, juste dans le mariage, que les toilettes n'étaient pas construites et ne seront pas construites dans le mariage, elle a annulé le mariage. Ses parents étaient catastrophés. Mais rien à faire. Elle a dit non, c'est non. Le mariage a été annulé. C'est une forme de crise familiale. Mais elle n'a pas bougé. Une ONG lui a ensuite trouvé une autre famille, un autre prétendant. Et je me suis dit, si une jeune femme d'un tel milieu, d'un tel niveau d'éducation, donc sans éducation, ose prendre de telles décisions courageuses, il y a de l'espoir, et même beaucoup d'espoir.
Merci Rajesh pour cet exposé sensible et puis qui nous a fait un sacré voyage. Je vais d'abord passer la parole à Céline Duchesnay, dont vous connaissez peut-être la voix, puisque c'est une journaliste de France Culture qu'on écoute très souvent dans Mauvais Genre. Mais Mauvais Genre, c'est une très bonne émission. Hein. Et puis dans plein d'autres émissions, elle va nous parler du baiser.
Bonsoir à tous et merci Toby, merci pour cette invitation, merci aussi Catherine. Alors moi j'ai choisi de vous parler d'une expérience que j'ai menée l'année dernière, qui est une expérience radiophonique que j'ai menée donc à France Culture où je suis journaliste, et c'était dans le cadre d'une émission que je produisais et qui s'appelait Le Monde est un campus. Alors le principe de cette émission, c'était une émission qui s'intéressait à l'interculturel à travers le portrait d'étudiants étrangers qui étaient venus étudier en France. Donc grâce à ça, il a souvent été question d'intimité dans ses entretiens, parce que c'était des interviews qui étaient essentiellement basées sur des parcours de vie, sur des impressions, sur leurs ressentis en France et les multiples chocs culturels qu'ils ont été amenés à rencontrer en arrivant en France. Alors, d'intimité, il a été question de la place de l'amour, beaucoup, du mariage aussi, de la sexualité. Et puis, très vite, a surgi une pratique sur laquelle, j'avoue, je ne m'étais jamais intéressée, enfin, pas intéressée, mais interrogée plutôt, qui était celle du baiser. Un étudiant m'a dit un jour, mais pourquoi est-ce qu'en France, on s'embrasse comme ça tout le temps sur la bouche ? Et alors, mon questionnement sur le baiser est né avec cet étudiant qui s'appelle Bianou, qui est un étudiant nigérien qui vient d'Agadez, et je vous propose de l'écouter tout de suite.
Quand je prends le tram, je rentre et les gens s'embrassent entre eux. se colle la bouche longtemps. Que vraiment, j'ai trouvé ça étrange, quoi. Vraiment, de voir des couples qui s'embrassent en public, fort, très longtemps. Et puis, vraiment, je me demande à un certain moment, qu'est-ce qu'ils vont faire devant nous? Au secours, mon Dieu. Et là, vraiment, je dis, c'est vrai, ça me choque, mais quand même, je ne peux rien faire.
Donc, quand vous me dites ça, j'imagine qu'au Niger, on ne s'embrasse pas en public.
Surtout à Agadez. Il va falloir que tu cherches un coin isolé, là où personne ne vous voit. Là où vous êtes libre vraiment de vous embrasser tranquillement, mais pas en public. Ça ne se fait pas chez nous là-bas.
Voilà, donc se coller la bouche sur la bouche. Alors je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà eu cette impression qu'en France, on s'embrassait partout, qu'on s'embrassait trop. Mais grâce à Bianou, ça a été quand même le départ d'une petite enquête que j'ai menée avec Toby Nathan, ici présent, puisque ça donnait lieu à une émission à laquelle Toby était convié. Et donc, on a découvert que de toute évidence, le baiser sur la bouche était loin d'être une pratique universelle. Alors je vous propose de partager le témoignage de ces étudiants. Donc, vous allez comme ça entendre un certain nombre de témoignages. C'est totalement subjectif, c'est-à-dire que c'est au fur et à mesure de mes rencontres que j'ai pu de temps en temps poser cette fameuse question du baiser. Mais grâce à ces témoignages, on va avoir une petite cartographie du baiser qui va se dessiner petit à petit sous nos yeux. Alors, première chose, par exemple, quand vous partez en voyage et que vous décidez de parcourir le monde, si je peux vous donner un conseil, en tout cas si le témoignage qu'on va entendre peut vous servir à quelque chose, si vous tombez nez à nez avec un jeune homme magnifique et qu'il vous prend l'envie de l'embrasser, méfiance. On va écouter Elsa, qui est une ancienne étudiante en ethnologie, elle est française.
C'était au Yémen, j'avais 20 ans et j'étais partie seule comme ça, me promener dans les montagnes du nord Yémen. Et dans un petit village, j'avais été comme dans tous les villages yéménites, il y a une hospitalité assez magnifique. Et j'étais à chaque fois accueillie chez les gens pour boire le thé. Et comme ça, dans une famille, j'ai vu un jeune garçon qui était présent dans la pièce dans laquelle je buvais le thé et qui me regardait, que je regardais. Et à un moment donné, on s'est retrouvés tous les deux face à face. Et là, je me suis rapprochée de lui pour l'embrasser donc sur la bouche. Comme ça, c'était un élan assez naturel. Je l'ai trouvé très, très beau. Il ressemblait un peu à un prince du désert. J'étais dans mes fantasmes. Et donc, je me suis lancée. Il était très, très mal à l'aise et suite à ce baiser qui n'allait pas très loin, il s'est mis à se laver la bouche et à se brosser les dents et laver et rincer la bouche, mais pendant, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure, comme ça, il était sur son évier et il se rinçait vraiment comme si je l'avais souillé. C'était assez surprenant ce qui s'est passé.
Voilà, donc à bon entendeur, salut. Alors cela dit, donc à l'écoute du témoignage d'Elsa, peut-être une chose à retenir, plutôt que de parler en termes de pureté ou de saleté, ce qu'on avait vu avec Toby, c'est qu'embrasser, on embrasse finalement quelqu'un de la même nature que vous. Parce que finalement, embrasser quelqu'un sur la bouche, c'est partager une forme de substance, et partager la salive, c'est évidemment le contact des lèvres. Alors Elsa, yéménite, il pouvait y avoir une attirance sexuelle entre deux, mais ils n'étaient pas de la même nature, c'est-à-dire que Elsa ne pouvait pas se marier avec ce yéménite, et bon, vice-versa, j'en sais rien, mais a priori, voilà, ils n'étaient donc pas de la même nature. Et alors, je dis ça parce que ça permet de faire un premier petit rappel historique, qui est que le baiser est né, en fait, dans le contour le pourtour méditerranéen. Et je ne sais pas si vous avez des souvenirs de vos manuels, notamment concernant la Rome antique, mais on voyait les patriciens qui s'embrassaient sur la bouche, bouche contre bouche, et c'était pour montrer qu'ils appartenaient au même univers et qu'ils étaient au même niveau. Donc on retrouve cette idée d'être de la même nature. Et alors, ma manière de procéder ce soir, ça va être ça va être écouter des témoignages, vous donner des pistes de réflexion, pas de solution ni d'interprétation, parce que je serais bien mal en peine de le faire. Mais les interprétations que je vous proposerai ont été élaborées avec Toby Nathan ici présent. Donc j'espère, oui, j'espère ne pas dire trop de bêtises lorsqu'on avait donc fait cette émission sur le baiser ensemble. Alors, tour du monde complètement subjectif, je vous propose donc de quitter le continent européen et d'aller en Afrique, et plus spécialement en Égypte, où on peut se poser donc cette question, est-ce que s'embrasser sur la bouche fait partie de la tradition égyptienne? Et pour répondre à cette question, une personne, Osama, étudiant égyptien, qui va donc nous répondre.
Je ne pense pas que ça fasse partie de la tradition, vraiment. Je ne pense pas non plus que ce soit tabou, interdit, explicitement. Alors, il faut dire que quand même, il y a certaines habitudes sensuelles, pour ne pas dire plus, qui ne se pratiquent à peine même entre couples parce que, dans la tête des gens, ces activités sont liées à des pratiques sexuelles, par exemple, ou des pratiques sensuelles qui sont soit mal vues, soit pas décentes, si je peux dire. C'est-à-dire que le baiser sur la bouche, c'est déjà le début d'un acte qui va probablement mener à d'autres choses. Déjà, ce baiser, c'est la porte que l'on ne souhaite pas ouvrir pour la plupart de couples pour que ça mène pas, disons, dans des pratiques qui peuvent être mal vues, même entre couples. La fellation, par exemple, ou ça, je peux vous dire que dans un couple typique égyptien, ça se pratique à peine. Ça, c'est vraiment mal vu.
Ce qui veut dire que quand, par exemple, un couple se retrouve pour faire l'amour, il n'aurait a priori pas tendance à s'embrasser.
Si, ils auraient tendance à s'embrasser, mais disons que le couple qui ne sont pas très à l'aise avec leur sexualité l'un avec l'autre, oui, ils vont éviter de s'embrasser. Et surtout, entre un couple qui prétend se respecter énormément, oui, le baiser profondément explicite comme ça ne se fait pas trop.
Alors, on est loin des longs baisers qu'on peut voir dans le cinéma égyptien, donc des années 50, 60, 70, et je sais qu'Osama a beaucoup vu, car il est là dans le public. Mais deux, trois petites choses qu'on peut retenir aussi, c'est que, bon, bah, finalement, la représentation du couple, est-ce que c'est un couple amoureux, ou alors est-ce que c'est un couple, un père et une mère? Et l'autre chose aussi que je trouvais très intéressante, c'était ces différentes parties du corps. Finalement, quelles sont les parties du corps qui sont associées à l'acte sexuel? On se rend compte qu'en fonction des cultures des uns et des autres, elles ne sont pas spécialement, les mêmes, et qu'en fonction de la culture dont on est issu, on peut avoir un regard particulier sur certaines parties du corps. C'est en tout cas ce que va nous dire Kizito, qui lui est un étudiant camerounais, qui vient du sud Cameroun, de l'ethnie des Étonnes, et il va revenir sur les différentes parties du corps qui poussent à l'amour.
Dans la tradition, d'abord au niveau des parties à apprécier dans les chants traditionnels, ou encore dans les blagues, dans les causeries, il y a les fesses, il y a les dents, il y a les cheveux et les poils, il y a le nez, mais comme partie vraiment sexuelle, poussant à l'érotisme, il y a les seins, des seins qui dansent lorsqu'une jeune fille, une jeune femme marche. Voilà, c'est des zones très, 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 très érogènes. C'est des parties qui sont très appréciées. La bouche, les lèvres sont pas des zones érogènes culturelles. Donc, c'est ce qui fait que bon, les gens n'ont pas eu l'habitude de s'embrasser par la bouche et c'est très mal perçu par la société. L'acte sexuel a un caractère très, très dépouillé. Donc, il n'y a pas beaucoup de ces mouvements pré-copulatoires. Mais bon, il y a de la tendresse. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a pas cette recherche fusionnelle. Voilà que j'ai remarqué ici. Parce qu'ici, le regard ici est très important. Deux amoureux qui se regardent, qui s'observent. Et progressivement, l'un voudrait entrer dans l'autre. Et j'ai l'impression que la bouche est ici le meilleur moyen d'entrer l'un dans l'autre. C'est vraiment cette recherche fusionnelle qui n'existe pas vraiment chez nous, ce n'est pas notre approche. Quand j'ai dit notre approche, l'approche un peu au sud Cameroun. Bon, déjà le fait qu'on ne regarde pas un aîné dans les yeux, fixer un aîné dans les yeux, c'est lui manquer de respect. Et c'est déjà ça, déjà le fait de se regarder dans les yeux, de se fixer. Et en même temps, à un moment donné, il y a ce mouvement l'un vers l'autre. Voilà, les yeux dans les yeux, le nez dans le nez, la bouche dans la bouche. et ce n'est pas les mêmes ressorts. Je crois que dans la société occidentale, c'est aussi très, très, très fort. La recherche des sensations fortes et la recherche des raffinements, pas seulement dans la vie ordinaire, dans l'art culinaire, dans l'esthétique, dans ceci, dans cela, et même dans l'érotisme. Il y a cette recherche de raffinement, qu'on recherchera des positions, on recherchera des élans, on recherchera des recettes, on recherchera...
Voilà, c'est quelque chose qui ne caractériserait pas, selon vous, votre culture.
Dans le domaine érotique, je ne pense pas, parce que les étreintes, l'art de l'amour est quand même assez dépouillé.
Alors ça me fait penser à ce que vous disiez sur ce couple qui se retrouvait derrière cette couverture en tête-à-tête. Là aussi, on pourrait faire un rapprochement difficile aussi de passer des heures, peut-être à faire l'amour, ou peut-être pas des heures, mais en tout cas de longues minutes quand vous n'êtes jamais seul. Et alors, je ne sais pas si c'est ce qui peut expliquer aussi cet art de l'amour épuré dont parle Kizito, mais peut-être qu'on peut en tout cas en tenir compte. Alors, je vous propose maintenant de quitter le continent africain pour nous rendre en Asie, et alors là, même constat, le baiser sur la bouche ne fait pas partie de la tradition. Alors, j'ai choisi un pays d'Asie, la Chine, en tout cas, il ne fait pas partie de la tradition chinoise. Je vous propose de lire un extrait du bulletin de la Société d'anthropologie de Paris, qui date en fait de 1897, et qui s'intitule « Le baiser en Europe et en Chine », ça a été écrit par un certain Paul Dangeois. Donc, voilà ce que raconte Paul Dangeois en observant la société chinoise. Aux yeux des gens de race jaune, notre coutume d'embrasser à pleines lèvres est odieuse. Ils éprouvent une aversion profonde pour l'acte répugnant qui consiste, disent-ils, à appliquer de façon vorace, comme des anthropophages, deux lèvres disposées en ventouse, qu'une instinctive salivation provenant d'une appétition inconsciente rend humide, et de faire claquer ensuite cette bouche avec un clapotis de choses molles. Ils estiment que notre baiser est une véritable succion. Un baiser, donc, qui est très loin du leur, et c'est encore Paul Dangeois qui nous explique ça, leur baiser consiste en un geste d'olfaction, sentir un être en fermant les yeux et en faisant claquer ses lèvres, c'est-à-dire prouver à l'être aimé que les effluves de sa chair causent un véritable délire. Ce qui nous fait penser au fameux baiser inuit aussi. Donc voilà, sentir. Mais alors, un siècle plus tard, les propos sont plus nuancés, notamment quand on écoute Xiao Xin, qui est une étudiante chinoise originaire de Zhaoqing, une ville qui est située près de Canton, dans le sud de la Chine, et tout est question de génération.
En Chine, oui, on s'embrasse, mais pas à n'importe où. On s'embrasse pas tellement en public, surtout pour les générations de ma mère et de ma grand-mère. Maintenant, avec la jeune génération, ça se fait de plus en plus, mais ça reste quand même, pas très courant, je trouve, à ma perception. Avant, les Chinois trouvaient que, de s'embrasser en public, ça nuit aux bonnes mœurs de la société. C'est quelque chose de privé, c'est quelque chose de très intime, donc, et ça fait penser au sexe aussi, surtout avant. Il y a ça, l'origine historique.
C'est tout de suite relié à la sexualité.
Oui, c'est ça. C'est pour ça que c'était mal vu, un geste tabou, considéré comme quelque chose de pervers. Ça se fait, mais en privé.
Vous pensez que le fait qu'on commence à s'embrasser dans la rue en Chine, que c'est quelque chose qui est plutôt récent?
Oui, je pense que c'est tout récent. C'est avec l'influence de la culture occidentale et aussi les séries coréennes sont très très connues, et surtout les séries romantiques. Je pense que ma génération a été très très influencée par ça. Maintenant, les jeunes comme moi font ça de plus en plus. L'image a changé, s'embrasser en public a changé.
Alors voilà, donc si on devait commencer à y voir un petit peu plus clair dans cette cartographie du baiser, donc a priori dans la tradition, pas de baiser en Afrique, pas de baiser en Asie, des baisers en Europe, et on va voir que donc il n'y a pas que l'Europe qui est contaminée par cette histoire de baiser, mais s'il y a bien quelque chose qui revient de façon assez systématique, c'est cette influence de la société occidentale, et c'est par exemple ce que va nous dire aussi Kizito à propos du Cameroun.
Ce baiser amoureux, il est apparu certainement avec l'arrivée des explorateurs, l'arrivée des Européens chez nous, bon, certainement, et les gens diront... ils font comme les Blancs, Voilà, c'est l'expression. C'est très très mal perçu. Les gens diront que vous n'êtes pas les blancs, allez faire ça ailleurs. Et aujourd'hui, c'est amplifié par la télévision, par la vidéo, par tous ces films-là qui nous viennent d'Amérique latine, d'Europe ou encore d'Amérique, où on voit les gens en train de s'embrasser par la bouche et dans la bouche, et jusqu'à ce que dans certaines cérémonies, même religieuses, certains mariages religieux, il y a des assemblées qui exigent ce qu'on appelle en français camerounais la centrale. Ils crient la centrale, la centrale, la centrale, c'est-à-dire embrasser l'autre conjoint par la bouche. Une fois qu'ils s'embrassent dans la bouche, les jeunes qui sont là se mettent à applaudir. Et les anciens qui sont là, les mamans, les grands-mères, sont très très mal à l'aise.
Pourquoi la centrale?
La centrale, c'est parce que c'est dans la bouche, un baiser qui est fait dans la bouche.
Voilà, donc le baiser est définitivement associé au monde occidental, mais alors, d'où vient-il? D'où vient-il ce fameux baiser? Alors, on avait vu avec Toby Nathan qu'une des premières, mentions du baiser, c'est dans le Cantique des Cantiques, donc ça remonte à bien loin, 11e siècle avant Jésus-Christ, avec par exemple cette petite phrase que je peux vous citer, « qu'il me baise des baisers de sa bouche ». Il est passé après chez les Grecs, évidemment chez les Romains, avec toujours cette idée de l'association de l'âme et du corps, donc pas seulement la copulation, l'acte sexuel, mais aussi une alliance des âmes. Il s'est répandu dans le monde chrétien, et parce qu'il s'est répandu dans le monde chrétien, petit à petit, ou en tout cas des siècles plus tard, on le retrouve dans le cinéma à Hollywood. Alors, je fais un immense saut. Pourquoi est-ce que tout à coup Hollywood s'est retrouvé le chantre comme ça du baiser? Eh bien, je dirais que c'est grâce ou à cause du French Kiss et des GIs pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que les Américains qui sont arrivés pendant la Seconde Guerre mondiale en France ont vu les Français s'embrasser, ils ont participé à cette grande embrassade collective et ils ont ramené avec eux le French Kiss. C'est pour ça qu'il y a cette expression du French Kiss qui après s'est propagée dans le cinéma d'Hollywood. Parce que quand les GI sont arrivés en France, c'était une période aux États-Unis où on était quand même assez puritain. Donc voilà, ça les a frappés. Comme souvent les bonnes choses, on les exporte et hop, et c'est passé aux États-Unis et c'est passé dans le cinéma. Voilà, donc mondialisation oblige finalement, c'est quand même le cinéma qui fait qu'on va le retrouver, on va retrouver ce baiser à peu près partout, même si vous l'avez vu dans les témoignages, il n'est pas pratiqué partout, c'est évidemment pas par toutes les générations. Mais pour finir, j'aurais voulu quand même aller sur un continent que j'ai négligé jusqu'à présent, parce que finalement, on y pratique beaucoup le baiser, c'est le continent américain, notamment le continent sud-américain, enfin Amérique du Sud et Amérique centrale, où s'embrasser sur la bouche est une pratique courante. Alors on va retrouver deux personnes, on va retrouver Mélanie, qui est étudiante colombienne, et Maria Alejandra, qui est étudiante mexicaine, et qui reviennent toutes les deux sur le baiser à la française.
El beso francés, on l'utilise pour caractériser cette manière d'embrasser, bien sûr, avec la langue, et qui peut être assez romantique, vu que la France est liée à Paris, la ville de l'amour, etc. Je pense que c'est ça, oui, je pense que c'est plus le côté romantique, parce qu'après, au niveau de quelque chose de technique dans le baiser, il n'y a pas de définition de caractéristiques spécifiques. Donc si on parle du fait qu'il m'a embrassée à la française, c'est le bisou français, donc on s'imagine déjà que c'était un niveau supérieur de la manière d'embrasser standard, on peut dire.
Nous les Mexicains, on essaie d'apprendre le French kiss, plus que faire le Mexican kiss. On a vu toutes ces belles photos des gens qui s'embrassent dans les cafés, les baisers de l'hôtel de ville, des choses un peu plus romantiques. Donc, on essaye toujours de bien faire le French kiss, nous. Ça pourrait être la caractéristique française. C'est juste qu'on s'embrasse, mais on s'embrasse avec beaucoup de passion. C'est un baiser qu'on déguste. Mais on ne sait pas trop qu'est-ce qui ça se passe avec les mains, avec les corps, mais toute l'énergie est là.
Et voilà, et j'aimerais conclure finalement sur cette énergie qui est proposée et diffusée par le baiser, peut-être en faisant une dernière allusion. Est-ce que c'est cette énergie qui pousse finalement les Chinois aujourd'hui à faire des concours de baiser? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça ou en Chine ou alors très facilement grâce à Internet, mais régulièrement pour la Saint-Valentin et d'autres événements, il y a des couples qui se réunissent et ce sera le couple à qui réussira à faire le plus long baiser dans différents types de positions, pieds sur les pieds, ou alors enlacés, ou alors la femme qui est comme ça portée dans les bras de l'homme. Je ne sais pas si c'est une histoire d'énergie, mais voilà où en est la jeunesse aujourd'hui chinoise. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Céline pour ce tour du monde du baiser. Mais alors, ça c'était vraiment... c'est une question qui touche tout le monde, vraiment. J'aimerais savoir ce que pense Rajesh de ce que vient de dire Céline. Parce que le baiser, c'est pas si facile en Inde.
J'ai pensé à deux choses en fait en vous écoutant. D'abord, on est très loin, nous, en Inde, d'un concours, vous savez, pour le baiser. C'est pour je ne sais pas combien de temps. Deuxièmement, j'ai pensé en fait au Kama Sutra et je suis presque sûr que dans le Kama Sutra, on parle du baiser. Et ça date du 6e, 7e siècle. Il y a aussi il y a plusieurs choses qui sont dites. Donc, on connaissait, je crois, l'Inde connaissait le baiser à l'époque.
Mais ce n'était pas un baiser public, en tout cas.
C'était pas un baiser.
Ce n'était pas un baiser public. Ça appartenait vraiment au domaine, pour le coup, de l'intimité.
C'était pas un baiser, oui. Je ne saurais pas vous dire. Parce que lorsque nous allons dans des villes comme Khajuraho, qui est une ville où il y a beaucoup de temples de cette période-là, avec des sculptures érotiques, et là, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même des gens qui s'embrassent. Et s'embrassent assez facilement. Il y a beaucoup d'autres choses aussi, mais je crois que le baiser est là.
Pardon, Rajesh, ils s'embrassent les gens dans le temple ou
non,
sur
non,
les
statues? Non, non, je parle des sculptures.
C'est juste les statues qui s'embrassent, pas les gens. D'accord.
Non, en Inde, on s'embrasse à peine maintenant en public. On commence à embrasser un tout petit peu dans des coins un peu reculés, mais pas beaucoup. Même dans le cinéma, le baiser est arrivé avec un retard. Mais le baiser, de toute façon, est pratiqué. Dans l'Inde aujourd'hui, on peut s'embrasser. Pas en public, mais on s'embrasse.
Alors Céline, vous vouliez commenter aussi ce qu'a dit Rajesh, je crois.
Céline m'a raconté, en fait, mais ça, vous pouvez le dire au public aussi. Hein.
Oui, ce que je vous avais raconté, c'est le témoignage de la deuxième personne qu'on a entendue, qui est cette jeune femme nommée Elsa, qui était partie au Yémen. Mais en fait, j'ai coupé le témoignage parce que voilà, je voulais faire le temps imparti. Mais elle a eu, à dire vrai, deux expériences liées au baiser. Donc la première que vous avez entendue avec le Yéménite, et la deuxième, quelques années plus tard, où elle était de mémoire au Rajasthan, et elle s'est retrouvée dans une fête avec des jeunes gens, et à un moment donné, dans un lit avec un jeune homme, Brahman, m'a-t-elle précisé, et tous les deux nus, donc prêts à passer à l'acte. Alors le jeune homme était tout à fait à l'aise pour toucher le corps d'Elsa, toucher son sexe, mais par contre, dès qu'Elsa, qui décidément était dans son histoire de baiser, voulait absolument l'embrasser sur la bouche, rien à faire. Le jeune homme passait son temps à bouger la tête à gauche, bouger la tête à droite, et surtout, il ne voulait pas se laisser embrasser, alors qu'il n'était de toute évidence pas du tout dégoûté par les autres parties du corps d'Elsa. Et l'histoire a fini exactement de la même manière. Il a fini par se lever et se laver abondamment la bouche pendant, je crois, un bon quart d'heure, et finalement, il s'est, je crois, rien passé de plus, autant que je sache. Donc voilà, voilà ce que je vous avais raconté, et j'avais bien envie d'avoir votre interprétation de la
comme
chose.
Comme je dis, je n'avais pas d'explication.
Elle n'avait
pas d'explication. J'ai pas d'explication.
Ah bon? Mais c'est courant.
Non, c'est pas courant, je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Il aurait pu embrasser facilement, à mon avis, il n'y avait aucun obstacle.
Ah. Il ne voulait pas, hein.
C'est un
parce qu'elle
réflexe
en plus, c'est une belle femme.
Et ça, c'est, mais oui, mais elle va de continuant en continuant à embrasser les gens.
Bon,
Non, je veux dire, j'ai pas compris la réaction de cet homme.
Est-ce que c'est pas cette histoire de nature dont on avait parlé justement, Toby?
Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais je croyais que il y avait quand même des. C'était pas aussi simple d'embrasser quelqu'un en Inde, non? D'embrasser quelqu'un sur la bouche.
Est-ce que c'est compliqué? Je crois pas. Non. Je ne sais pas.
Mais si, parce que quand vous écoutez le témoignage des gens, c'est compliqué.
Le baiser en public, ça reste toujours un peu compliqué. Mais le baiser entre couples et baiser entre amoureux, ça fait partie de la vie. Mais...
D'accord. Alors, justement, moi j'avais une question à vous poser, Rajesh. Vous êtes passé un peu vite sur ces histoires d'horoscope. Qu'est-ce qu'on regarde dans l'horoscope?
Qu'est-ce qu'on regarde dans l'horoscope? On regarde en fait ce que je sais, hein, je ne suis pas un expert. Je me suis battu avec mes parents pour ça justement aussi.
Vous êtes marié avec l'horoscope?
Justement non.
Ah non, bon d'accord.
Parce que mes parents voulaient le faire et je me suis battu pour qu'on ne le fasse pas.
D'accord.
Mais c'était une bataille qui était assez. Qui a duré longtemps. Vous savez, finalement, dans une famille, on est habitué à certaines choses. Ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi toujours, mais on est habitué à ça, et ne pas le faire, ça dérange. Donc, mes parents pensaient que, bon, même si tu n'y crois pas, on peut le faire. Et je ne voulais pas qu'ils le fassent. Ni pour ma femme, ni pour mes enfants, parce qu'ils voulaient aussi... Donc, c'était un peu compliqué, mais bon. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Je crois qu'on regarde, en fait, le moment de la naissance des personnes, si ça correspond ou pas, si c'est un moment qui est auspicieux. Vous savez, c'est ça. Donc, si c'est un... Je crois que c'est plutôt ça. Je ne saurais pas vous dire exactement.
Mais c'est-à-dire qu'on voit à partir du jour de naissance, de l'heure...
Il est très important de savoir exactement quel jour on est né,
À quelle heure on est né.
Vous savez, si c'était le crépuscule, en fait, le matin, ce sont des choses comme ça. Ensuite, quel type de période de l'année. Ensuite, parce qu'il y a des périodes qui sont plus auspicieuses que d'autres.
Et il faut que ça corresponde, c'est bien ça.
Il faut que ça corresponde, oui. Et parfois, un prêtre ou un pandit peut dire, écoutez, je ne vous suggère pas ou je ne vous conseille pas de vous marier parce que les horoscopes ne se correspondent pas.
Oui. Et c'est ce que vous craignez.
Pardon?
Vous ne vouliez pas le faire de peur qu'on vous dise ça?
Non, au contraire, j'y croyais pas. Vous savez, finalement, il y a quand même beaucoup de superstitions, il y a beaucoup de choses comme
bien
ça.
Bien sûr.
Il faut aller au-delà, il faut...
Ah, c'est à cause du côté superstitieux?
À cause du fait que je n'y croyais pas, je ne voulais pas qu'on sombre dans le même type de mentalité. Parce que finalement, vous savez, lorsqu'on commence avec ça, il n'y a pas de fin, il y a toujours des choses. Chaque chose, il y a bon, pour cette cérémonie, il faut faire ça. Pour le mariage, il faut faire cette date. On ne peut pas se marier en octobre ou en septembre, il faut se marier l'année prochaine. Vous savez, c'est tout un cycle.
D'accord. Mais c'est-à-dire que c'est une intimité programmée, en fait. On peut dire comme ça.
On peut dire comme ça, oui, ce serait un peu drôle, oui.
C'est drôle, parce que c'est l'intimité et en même temps, c'est programmé sous le regard du groupe, en fait, de la famille, quoi.
C'est ça. Non, mais dans des familles un peu modestes, si vous êtes une famille riche et vous avez plus de chambres à coucher, vous avez bon, on peut avoir beaucoup d'espace privé.
Alors, Céline, vous vouliez réagir à ce qu'a dit Rajesh?
Moi, je me posais la même question de savoir pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas le faire, mais voilà, j'ai la réponse.
Parce que on l'a déjà beaucoup questionné, le pauvre Rajesh.
Je croyais que j'avais répondu, non? Mais
vous avez répondu, tout à fait.
Parce que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a une question théorique qui est en train d'être très brassée par et l'un et l'autre, c'est-à-dire que l'intimité n'existe que sous le regard des gens, quoi, des autres. C'est-à-dire, avoir une intimité, c'est se retirer du regard des autres, mais il faut qu'ils soient présents, sinon il n'y a pas d'intimité. Je veux dire, si vous êtes juste seul au monde, vous n'avez pas d'intimité. Il faut qu'il y ait des gens dont vous fuyez le regard pour vous retrouver dans l'intimité. Donc la présence de l'autre quelque chose d'obligatoire. Je vous dis ça parce que je repense à quelque chose qui s'était passé, que m'a raconté un couple, en fait, malien. Un couple malien qui, le soir de cette nuit de noces, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y a une panne, quoi. Une panne. Et donc, mais le lendemain aussi. Puis quand il y a une panne, après, on est angoissé. Après, la panne amène la panne, enfin, etc. Et donc, ils sont allés voir un guérisseur pour essayer d'arranger l'affaire. Et il a dit, il a donné ça comme truc. Ils m'ont raconté ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à 3 autres couples de se mettre chacun aux points cardinaux du village. Donc, eux étaient le couple qui avait des problèmes au nord, l'autre au sud, un troisième à l'est et un quatrième à l'ouest. Et ils devaient faire tous l'amour en même temps, chacun de son côté. Et le premier qui arrivait devait tirer un coup de feu en l'air. Et bien, ça a marché. Le couple a pu avoir cette relation sexuelle. C'est-à-dire qu'il a eu son intimité, mais la présence des autres était... Elle n'était pas là, sous leur nez, quoi. Mais en même temps, il fallait qu'il y ait cette présence des autres, intimité en présence des autres, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu ça que vous racontez. J'ai le sentiment, hein, mais je ne sais pas. Vous êtes d'accord avec ce que je dis ou...
L'intimité en présence des autres.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire, pas en présence physique, mais il faut bien qu'on fuit la présence des autres. Vous avez dit ça, c'était superbe comment vous avez raconté ça, Rajesh. Parce que moi, j'ai eu cette expérience aussi en Afrique, quoi. On fait l'amour à 3h du matin en Afrique. C'est-à-dire qu'on attend que tout le monde soit endormi, parce que bien sûr qu'il fait très chaud, bien sûr que toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes quand il y en a. Souvent, il n'y en a pas. Donc, pour qu'un jeune couple ait une relation intime, bah, il guette le moment. Lorsque les derniers couchent tard sont endormis et que les premiers lèvent tôt sont pas encore levés, quoi. C'est juste ce moment-là. Et c'est 3h du matin, en fait. Non, c'est comme ça aussi, non?
Non, c'est pour ça d'ailleurs que la sexualité dont on parle en Inde, c'est pour les hommes. La femme, en fait, ça compte pas. Parce que finalement, si vous allez dans son lit pour 3 minutes ou 10 minutes, vous savez, on pense pas à la femme. On pense seulement à l'homme. C'est un tout petit peu le problème.
C'est vrai. C'est pas comme ça dans le Kama Sutra. Hein.
Ce n'est pas comme ça dans le Kama Sutra, non.
Pas du tout, même.
C'est ce que je crois comprendre.
Oui. Bon. Un autre commentaire ?
Non, mais du coup, moi, en vous écoutant parler, Toby Nathan, je pensais à ces fameux concours de baisers.
Ouais.
Du coup, qu'est-ce qui pousse ? Pourquoi faire ça si finalement le baiser est censé être un acte intime et qu'on le fait devant la télévision, devant une grande assemblée, qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Est-ce que c'est qu'une histoire de performance ou
Je crois que dans ce cas-là, c'est une histoire de performance. Ouais. Mais en même temps, on fait une performance. Peut-être bien qu'il se passe d'autres choses pendant la performance. Je ne sais pas. Bon. Alors, peut-être on va passer la parole à la salle. Des questions intimes, peut-être ? Non ? Alors, il y a plusieurs personnes. Il y a quelqu'un ici ?
Oui, moi, je me pose une question. J'ai deux questions. Il y a une question qui est celle des Russes qui s'embrassent sur la bouche. C'est une tradition. Enfin, ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir. Je me posais une question. Et l'autre, c'est, en fin de compte, le baiser. Alors, je vais peut-être un peu surprendre les gens. Mais vous vous marquez, c'est-à-dire c'est qu'on échange nos marques, nos odeurs, comme par exemple des gosses qui se crachent les uns sur les autres. En fin de compte, ils se crachent les uns sur les autres pour être du même groupe, en fin de compte. Parce que chacun aura le marquage des autres. Est-ce que le baiser aussi, là, c'est pas quelque chose où... D'un seul coup, c'est quelque chose de très, très intime. Et vous avez ce mélange de la salive, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est ce que je voulais vous poser comme question. Est-ce que ça a à voir avec ça, en quelque sorte, le baiser ?
Alors, Céline qui est la spécialiste du baiser.
Mais je ne vais faire que répéter vos propos, Toby Nathan. Mais on avait parlé de ça, justement, ouais. Cette histoire d'échange de substances qui faisait qu'on était de la même nature. Hein, je crois que c'est ce que j'ai dit au début de cette intervention. Finalement, échanger la salive, le fait de toucher comme ça les muqueuses, ça montre qu'on appartient au même groupe, à la même nature. Et c'est le problème qu'avait eu cette fameuse Elsa à vouloir embrasser ce yéménite qui n'est pas de la même... Enfin, quand je dis de la même nature, évidemment, de la même nature humaine, mais qui n'est pas du même groupe qu'elle. Hein. Donc, ça rejoint...
Vous êtes d'accord avec...
Il me semble. Hein,
d'accord.
Oui.
Oui, bonsoir. Je m'interrogeais parce que vous en France, enfin en Occident en général, je pense, l'image qu'on a de l'Inde, c'est le Kamasutra, c'est ces sculptures sur ces temples qui sont d'un érotisme très avancé. Et alors, vous semblez décrire une vie sexuelle très réservée, qu'on pourrait presque dire puritaine. Donc il y a un peu un paradoxe que j'aimerais bien que vous éclairiez un peu.
C'est une question pour Rajesh, j'imagine.
Oui, c'est un problème auquel j'ai eu à faire face. J'ai beaucoup de mal à expliquer à mes étudiants en France ou en Inde comment se fait-il que le Kama Sutra, la société du temps de Kama Sutra était si libérale, libératrice, en fait, c'était celle-là, et aujourd'hui on est tout à fait à l'opposé. Franchement, je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. J'ai du mal moi-même à comprendre comment c'était mon pays à l'époque. Et là où je vis aujourd'hui, c'est aussi mon pays. Mais ça n'a rien à voir. Du point de vue sexuel ou sexualité ou tout le reste.
Ce serait une évolution historique.
Pardon ?
Ce serait une évolution historique. Comme,
évolution, oui, si vous le dites, oui.
Pourrait opposer la période, la libération sexuelle aux États-Unis dans les années 70 avec le puritanisme qui réapparaît aujourd'hui.
Ce qui est certain, c'est que du temps du Kama Sutra, vous voyez, en fait, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement, enfin, c'est pas quelque chose de passager, c'est extrêmement réfléchi, étudié. Donc c'est extrêmement bien fait, c'est un art, il me semble.
Hein,
c'est un art. Le Kama Sutra, c'est un traité scientifique. En fait, c'est extrêmement bien fait, avec des catégories, vous savez, toutes sortes de choses. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait du jour au lendemain. Ça a pris du temps. Et là, l'Inde aujourd'hui aussi, ça a pris du temps. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps.
Alors, Catherine voulait intervenir là. Catherine là. Non, mais tu voulais commenter ça, ce point-là. Bon.
Rapidement, madame, je ne vous vole pas la parole longtemps. La reine Victoria y est pour beaucoup quand même. dans le recul de l'Inde en matière de sexualité. Moi, j'appelle ça carrément un recul. Parce que tout de même, à partir de l'Empire des Indes, donc 1858, les femmes de la bonne société indienne admises à rencontrer leur maître blanc avaient l'obligation de porter des manches sous leur sari jusqu'au poignet, pour donner une petite idée. Ça donne une idée quand même de l'ampleur de la répression sexuelle à partir de 1858 jusqu'au siècle suivant. Et les indépendantistes étaient quand même aussi assez puritains. Pas toujours, mais enfin quand même, plutôt. Voilà, je vous rends la parole.
Merci. Je vous rejoins d'ailleurs, madame, parce que du temps de la reine d'Angleterre, dans les salons victoriens, on mettait des housses aux jambes des fauteuils parce que c'était indécent. Et on n'osait pas prononcer ce mot. Maintenant, pour les annonces matrimoniales, j'ai regardé des journaux anglais qui sont destinés à l'immigration hindoue, indienne,
anglais-indien
en Angleterre. Et il y avait ceci, voilà ce qu'on demande des prétendants, qui donnent leur caste, ensuite leur couleur de peau, et plus, on m'a dit, plus la peau était blanche, plus c'était recherché, et ensuite surtout avoir un permis de séjour et de travail. Et ensuite, on faisait venir l'astrologue, si on était d'accord avec la physionomie et les caractéristiques du prétendant, pour voir si les horoscopes correspondaient, si on pouvait marier une femme taureau avec un homme du bélier. Voilà ce qu'ils m'ont expliqué. Je vous remercie.
Non, il est vrai que, vous savez, les annonces matrimoniales, il y avait toutes sortes de choses. Il est certain que nous sommes, l'Inde est obsédée par fair skin, avoir la peau la plus claire possible. Je ne sais pas si tout est toujours dit dans les annonces, Mais oui, il y a des choses qui sont là.
Alors,
oui, bonjour.
Bonjour.
J'aurais voulu savoir par rapport aux transsexuels, parce que vous nous aviez dit, quand vous nous avez parlé des petites annonces, que vous alliez parler aussi des transsexuels, je crois. Et je me souviens
des troisième sexe, oui.
Des transgenres.
Transgenres.
Je profite, j'ai le micro, j'avais d'autres petites questions. Par rapport à la condition féminine, ce qui m'interroge, c'est pourquoi on... Enfin, j'imagine que le problème de la dot devait déjà se poser autrefois. Et est-ce qu'autrefois aussi, il y avait déjà tous ces infanticides? Et du coup, est-ce que ça fait très longtemps, finalement, que l'Inde est habituée à vivre avec beaucoup plus d'hommes que de femmes? Et du coup, si c'est le cas, pourquoi la femme ne prend pas plus de valeur, puisque elle est plus rare? Et du coup, pourquoi elle continue à être aussi... pourquoi c'est une société qui continue à être aussi misogyne, finalement? On ne pourrait pas penser que ça devrait donner l'effet inverse, le fait qu'il y ait moins de femmes. Voilà.
Alors, deux questions pour vous, Rajesh.
Oui, c'est ça, j'ai compris.
D'accord.
Logiquement, pour répondre à la deuxième d'abord, logiquement, évidemment, s'il y a moins de femmes, il faut moins... En fait, il faut plus les comment dire, les...
Ça monte, leur cote monte.
C'est ça, il faut que la cote monte.
Ben oui.
Il faut les apprécier davantage.
Bien sûr.
Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est tout à fait le contraire, d'ailleurs. En même temps, ils ne peuvent pas se passer de femmes, donc c'est pour ça que même les Punjabis sont obligés d'aller chercher des femmes ailleurs. Mais il est vrai que l'Inde a besoin d'une vraie dose d'éducation. Vous savez, il faut quand même qu'on sache apprendre à valoriser la femme.
Bon, ça c'était la seconde question. Et
la seconde question, c'est sur les
transgenres. L'Inde
était, en fait, de ce point de vue-là, assez en avance, parce que l'État du Tamil Nadu, donc du sud de l'Inde, a reconnu en 2008, donc il y a 8 ans de cela, le transgenre comme un sexe à part. Donc dans tous les formulaires en Inde, que ce soit pour la carte d'identité ou ailleurs, il y a homme, femme ou troisième sexe. Donc c'est quelque chose qui a été assez tardif, mais finalement, l'Inde a quand même réagi bien à ça.
Parce qu'il y avait une tradition aussi.
Il y a une tradition aussi, mais l'Inde, vous savez, le gouvernement ou la société ne réagit pas toujours bien à certaines choses.
Oui,
mais ici, par contre, ils ont été quand même assez réactifs.
Je voulais simplement faire une remarque par rapport au baiser. Je pense que la bouche et la langue sont très énervés, et donc forcément ça va stimuler le cerveau, et pour le peu qu'il y ait une éducation et un apprentissage derrière, ça va faciliter le plaisir en provenance du baiser. Si on prend un dauphin par exemple, un dauphin il va pas avoir de lèvres et il va avoir du mal à procurer du plaisir avec son bec, et vu qu'il peut pas sortir la langue, il va encore avoir plus de mal pour échanger avec la langue. Donc il y a des limites dues à l'anatomie fonctionnelle et en même temps un apprentissage culturel. Et je pense que la démonstration de faire le tour du monde, c'est basé principalement sur un apprentissage culturel. Merci. Bon.
Alors, c'était juste un commentaire, c'était pas une question.
C'est, un spécialiste des cétacés, c'est ça, hein? C'est Olivier Adam, oui.
Vous le connaissez? Ah ouais, non, mais il devrait dire quand même que les dauphins ont des jeux sexuels qui durent des heures quand même, sans la bouche, bien sûr, mais avec plein d'autres parties du corps quand même.
Oui, pardon. Il ne nous a pas parlé des orques en plus.
Et des orques aussi, oui. Alors, une autre question, je crois, là-haut.
Oui, bonsoir. Je reviens sur votre auditrice, qui était en fait une anthropologue du baiser, qui faisait de l'observation participante.
Deux, ça pas beaucoup, quand même.
Auteur du monde, mais elle nous a livré que deux expériences. Mais donc, elle a bien dit qu'un de ses partenaires était dégoûté par sa bouche, mais pas par le reste de son corps. Monsieur, tout à l'heure, a dit que dans le baiser, on se mangeait, mais dans l'amour, on ne se mange pas que la bouche. Et donc, puisque l'intimité sexuelle vue d'ailleurs, ça implique l'Occident et l'ailleurs, une des conquêtes des femmes occidentales, ça a été le droit à la jouissance. Et vos auditrices ont bien dit, vos auditeurs, auditrices ont bien dit que ce baiser, c'était le prémisse à l'acte sexuel. Et il n'y a pas d'acte sexuel sans préliminaire avec les baisers, sauf dans les rapports prostitués. Mais justement, est-ce qu'on peut concevoir une libération des femmes de l'ailleurs si elles ne conquièrent pas leur intimité, qui semble difficile, puisque les parois sont très fines au Japon, tout le monde est sur la terrasse dans les nuits chaudes sous les tropiques. Est-ce que cette famille nucléaire et ce climat qui a mis les gens dans une intimité à deux, parce que, monsieur Jonathan, il y a de l'intimité même à deux, il suffit de décréter que l'intimité, c'est sous nos parties privées, on n'a pas besoin d'une société entière. Donc, est-ce qu'on peut conquérir cette émancipation féminine et cette conquête de la jouissance féminine sans conquérir cette intimité du baiser ?
Alors, c'est un plaidoyer pour la société occidentale, pour Céline.
Du coup, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que ça peut se passer en dehors du baiser ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait y associer le baiser, finalement ? Enfin, moi, ce serait plutôt mon interprétation. C'est finalement, ce qu'on a vu à travers ce petit exposé, c'était que le baiser était quand même quelque chose de très occidental, après, qui s'exportait, qui vivait sa vie. Mais pour moi, la jouissance féminine et la conquête de la jouissance féminine ne passe, entre autres, par le baiser pour nous, femmes occidentales, mais je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas passer justement par d'autres parties du corps. Et on sait bien qu'il en existe d'autres parties du corps qui apportent de la jouissance.
Oui, tout à fait, mais ce n'était pas tellement ce qu'on ressentait de la description de la sexualité dont nous a parlé Rajesh Sharma pour les femmes indiennes. Et donc, on a peu de données. On a des données occidentales sur l'augmentation de cette conquête du plaisir et de la jouissance féminine en Occident. On a peu de données sur le plaisir et la jouissance des femmes de l'ailleurs. Ce n'est pas de l'ethnocentrisme, c'est une question pour demander. S'il y a d'autres chemins vers cette conquête de la jouissance féminine, ça c'est très intéressant qu'elle déborde des frontières de l'ailleurs et qu'elle nous contamine pour une fois dans l'autre sens.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que quand j'ai parlé du baiser, c'était... Bon, je plaisantais en disant que je faisais un plaidoyer pour le baiser, mais quelque part non. Enfin, moi, j'aime beaucoup les baisers, hein, mais ce que je pense que... là où je me méfierais un petit peu, c'est que je n'irais pas dire qu'il y a une manière, finalement, d'arriver à une forme de jouissance féminine avec un schéma type... et un certain protocole à suivre. C'est peut-être plus par rapport à ça que je... Mais peut-être que je ne réponds pas à votre question. Tant mieux.
Bon.
Alors, merci.
Et encore une question.
J'ai une question sur la valeur symbolique du viol en Inde. Je crois que d'après votre exposé, vous nous avez... fait comprendre que une des explications de l'ampleur du phénomène vient du fait qu'il y aurait une réaction patriarcale soutenue par des hommes présents dans des grandes villes qui viendraient d'un contexte socio-culturel plutôt de la campagne, plutôt conservateur, et qui réagiraient à une modernité qu'ils trouveraient dans les villes par rapport à la liberté du comportement de certaines femmes. J'ai l'impression de voir un paradoxe dans le viol, parce que visiblement, le reste de votre exposé nous disait que mariage et intimité sexuelle étaient inséparables dans la société indienne, et donc violer une femme, c'est-à-dire la forcer à avoir un rapport sexuel hors mariage, évidemment il y a là une violence physique évidente, mais quelle est la violence symbolique qui est mise derrière ce viol ?
Lorsque je disais que les gens réagissent mal ou ne savent pas comment réagir, il y a aussi beaucoup d'autres éléments. Et l'un des éléments qui est souvent cité, c'est l'alcool. Donc souvent, lorsque les gens boivent beaucoup, souvent lorsqu'ils sont seuls et ils habitent ces quartiers, ils boivent. Et lorsqu'ils boivent, c'est souvent ils se laissent porter par différentes choses. C'est souvent l'une des choses qui a été citée et par la police et par les autorités. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ce qui est certain, c'est que nous avons en Inde maintenant, et même à Delhi, malgré le fait que les sentences ont été rendues beaucoup plus dures, le viol n'a pas cessé. Le viol continue et continue de façon quand même assez dérangeante toujours. Je ne saurais pas vous dire quelle est la valeur symbolique du viol.
Oui, parce qu'il y a d'autres sociétés dans lesquelles la réaction patriarcale s'exprime sous forme violente contre les femmes, comme par exemple en les brûlant ou en leur jetant de l'acide dessus. pour également leur faire les remettre dans l'ordre patriarcal. Mais ça ne passe pas forcément par le viol, ça ne passe pas forcément par l'imposition d'un acte sexuel sur les corps des femmes. Donc c'est là que je me disais, est-ce que le fait de vouloir forcer une femme à avoir un acte sexuel, quelle est la symbolique de cette violence-là ?
Pour ne pas répondre directement, je vais citer un autre exemple. Nous avons eu des cas en Inde, aussi très à la une partout, où le conseil des sages d'un village a ordonné qu'une femme soit violée parce qu'elle a une relation avec quelqu'un d'hors caste ou un musulman ou quelqu'un de un outsider, comme on dit. Et donc, c'est à l'instigation du conseil du village qu'une femme sera violée par le village, ou 10 personnes ou 5 personnes. C'est comme une sorte de sentence du village. Donc là, en quelque sorte, on peut dire symboliquement, c'est une façon d'imposer son autorité. Mais c'est, heureusement, ce n'est pas le cas partout.
Bonjour, je continue sur la même ligne. Ah. Ce n'est pas le cas partout. Alors. Est-ce que vous pouvez commenter sur les différences géographiques dont on lit souvent? Est-ce que ça existe vraiment? Je souhaite que ce ne soit pas aussi simple que Nord-Sud.
Vous voulez dire plus de viols dans quelle partie de l'Inde, c'est ça?
C'est dans les grandes villes, d'après
tout ce que je peux vous dire, c'est que les cas dont on a parlé beaucoup dans la presse, énormément de cas viennent des alentours d'Eli, enfin d'Eli et aux alentours. Beaucoup viennent de la région de Bangalore, du Karnataka. Beaucoup aussi du Bengale. Je ne dis pas que les autres, on n'a pas la même chose ou on n'en parle pas assez, mais je vous cite seulement les cas récents qui ont fait beaucoup, en fait, qui font la une de la presse partout. Pourquoi ces endroits-là? Pour Bangalore et Delhi, je peux essayer de penser que c'est parce qu'il y a beaucoup de migration, beaucoup de gens qui sont arrivés ici pour chercher du travail. Donc beaucoup d'hommes seuls qui restent des années là-bas dans des conditions pas toujours très confortables ou faciles. Mais pour le Bengale, ce n'est pas le cas. Les Bengales, il y a d'autres cas et d'autres raisons. Et souvent, c'est lié soit aux terres, au terrain, pour l'exploitation des communautés tribales, etc. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs. Et ça dépend des régions. Mais je ne dis pas qu'à Bombay, on n'avait pas de viol. Il y a sûrement des viols à Bombay aussi, ou dans le Maharashtra ou ailleurs. Mais les régions que je citais, c'est ces trois-là. Mais il est certain que ces jours-ci, on entend beaucoup parler du Karnataka, donc dans la capitale de Bangalore, on parle beaucoup des agressions sexuelles là-bas, énormément.
Donc les choses ne sont pas simples.
Pardon ?
Les choses ne sont pas simples. Et apparemment, il y a... je sais pas, moi, je connais pas du tout, hein, mais par comparaison avec des phénomènes semblables dans d'autres endroits, en effet, ce que vous dites... Des mesures d'imposition d'une règle à la femme, c'est vrai. Et il y a aussi le fait qu'il y a une sorte d'énoncé comme ça, tu n'es plus mariable. Quelque chose qui a rapport avec le mariage.
Oui, c'est un peu ça aussi, oui, c'est sûrement. Non, parce que vous savez, on ne peut pas changer la société en imposant toutes sortes de lois. Il faut quand même essayer de changer la mentalité des gens, et ça prend du temps. Oui.
Évidemment. Mais c'était le cas en France, hein. Ça a mis très très longtemps à céder, hein, en France.
Parce que les gens pensaient qu'une fois que les sentences pour les viols seront plus sévères, ça va baisser, mais ce n'est pas le cas du tout.
C'est vrai, mais ça met du temps. En France, c'était le cas. Ça a été les viols du samedi soir par des jeunes gens alcoolisés. C'était quand même une épidémie dans les années 60 en France, hein. Il a fallu des législations de plus en plus sévères, puisque le viol, à ce moment-là, n'était même pas pénalisé, il était correctionnalisé. Donc, il a fallu le pénaliser et qu'on a augmenté les sentences. Ça a été 15 ans, en fait. Et à partir du moment où ça a été 15 ans, c'était quasiment presque automatique, ça s'est arrêté. Enfin, ça a beaucoup diminué, quoi. Mais c'est bien comme ça qu'on a procédé aussi en France. Et le même phénomène existe en France. Hein. Existait. Existe maintenant, mais différent. En
fait. Pardon, je vais juste citer, parce que la question était là au sujet de... J'ai cité le Bengale. Je viens de publier un livre il y a quelques semaines qui s'appelle « 13 hommes ». Et c'est justement à cause, en raison de ce viol ordonné par ce conseil de village dans une partie tribale du Bengale. Et cette journaliste ou cet écrivain est allé sur place pour un peu faire une sorte d'investigation. Et elle s'est rendue compte qu'il y a, au-delà ou derrière toute cette nouvelle sensationnelle, il y a beaucoup d'autres facteurs dont on ne parle pas. On parle des politiques qui essaient d'exploiter les tribaux, en fait, les communautés tribales. Ils veulent en fait s'emparer de leurs terres. Donc ils font manipuler, ils font toutes sortes de choses. Donc il y a quand même beaucoup de facteurs qui n'apparaissent pas pour un simple lecteur. Et donc c'est un livre qui fait une centaine de pages et finalement qui ne donne pas raison ni à la femme qui a été violée, ni aux accusés. Donc c'est une force d'investigation. Moi, je trouvais remarquable parce que on parle de ce cas et on parle aussi de ce problème sociétal qui déchire l'endroit en ce moment, sans prendre de position.
Une question que je voudrais vous poser, vous nous avez parlé de l'intimité sexuelle, ce qui, dans ma tête, à moi, je ne peux pas, représente les moments où, de façon intime, de façon en couple, on se donne du plaisir l'un à l'autre, ce qui signifie un certain respect de la dignité des deux, à moins de parler de sadomaso, mais ça c'est en dehors de moi ma question. Et comment pouvez-vous expliquer qu'en essayant de parler de cela, le fait comment ça se passe de se donner du plaisir l'un à l'autre, le rôle du baiser pour se donner du plaisir, ça sert à ça, l'intimité sexuelle. Comment on peut en arriver à ce que toute la salle discute du viol des femmes ? C'est un peu effrayant quand on est femme.
Bon. Bon. Vous voulez dire quelque chose, Céline ?
Parce que je suis une femme.
Bah oui. Parce qu'on est.
On n'a pas parlé que de ça quand même. Mais après, c'est vrai dans le. Oui, mais parce que peut-être que quand on parle de viol et qu'il y a cette actualité aussi qui fait qu'on avait peut-être envie d'en savoir un peu plus, comme on a un spécialiste sous la main, peut-être.
Spécialiste, non.
après, là où je suis, intimité sexuelle, ça ne veut pas spécialement dire se donner du plaisir. C'est qu'est-ce qui se passe dans l'intimité.
Bon. Alors, je vous propose de passer un bon week-end. Alors, merci.